Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Le Meilleur des Mondes, l'émission de France Culture qui s'intéresse aux bouleversements suscités par le numérique et les nouvelles technologies. Depuis le 7 octobre et l'attaque sanglante du Hamas contre Israël, les réseaux sociaux sont en pleine ébullition. Nous assistons à une déferlante d'images et d'entreprises de désinformation où de multiples acteurs utilisent les outils du numérique pour faire passer leurs messages et propagande. Un brouillard informationnel, une guerre des récits où l'utilisateur que nous sommes submergé peine à démêler le vrai du faux. Comment le Hamas s'est-il emparé de la question des nouvelles technologies pour en faire une arme idéologique? Quel est son usage de la vidéo des combats et des réseaux comme Telegram où la modération est quasi absente? Comment Israël riposte dans cette guerre informationnelle où l'armée de Tsahal occupe depuis longtemps le cyberespace jusqu'à investir des fenêtres publicitaires sur YouTube ou des jeux en ligne? Comment les médias traditionnels tentent-ils d'informer la population française à l'heure où l'intelligence artificielle sème la confusion entre la fabrique du faux et la remise en question du vrai? Enfin, que vaut le DSA, le Digital Services Act, face à ce conflit majeur? La réglementation européenne censée mieux réguler, encadrer et sanctionner les plateformes en cas de manquement joue-t-elle ici sa crédibilité, notamment dans son rapport de force avec Elon Musk? Beaucoup de questions et trois invités pour y répondre. Hugo Michereau, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen. C'est paru aux éditions Gallimard cette année. Vous pourrez parler de l'importation du conflit Israël-Hamas en Europe et de l'utilisation des réseaux sociaux par les mouvances djihadistes, notamment pour cibler les plus jeunes. À distance, Ophélie Coelho, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse indépendante, autrice de Géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant aux éditions de l'Atelier, publiée également cette année. Vous pourrez revenir sur la dimension numérique du conflit, notamment sur le rôle de X, anciennement Twitter, et évoquer les difficultés de l'Union européenne à imposer sa loi en matière de modération. En studio, pour compléter ce plateau, Julien Pain, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et rédacteur en chef de l'émission Vrai ou Faux sur la chaîne France Info. Vous pourrez détailler votre travail quotidien de fact-checking et décrypter les outils de désinformation. Explorez aussi les méthodes d'OSINT, hein, recherche à partir de sources ouvertes, pour mener un travail d'investigation dans le cyberespace. Au programme également, une chronique de Marie Turcan, rédactrice en chef chez Numérama. Marie nous parlera de ses premiers pas sur le réseau social Blue Sky, qui se présente comme une alternative sereine à Twitter. Quant à Juliette Deveau, elle nous livrera les bonnes nouvelles, les nouvelles d'un monde meilleur. Et on en a bien besoin. Le meilleur des mondes s'écoute en direct ou en podcast sur l'application Radio France et se regarde également sur la chaîne Twitch de France Culture.
Ils étaient venus faire la fête de toute l'Europe et parfois de bien plus loin.
On nous tire dessus. Ne bouge pas, on nous tire dessus.
Plus de 1400 morts côté israélien et plus de 3000 morts côté palestinien à Gaza.
Tout membre du Hamas est un homme mort. Le Hamas, c'est Daesh. Et nous allons les écraser et les détruire comme le monde a détruit Daesh.
Israël, Hamas, Gaza, ces trois mots-clés inondent les réseaux sociaux avec près de 120 millions de messages liés au conflit. C'est du jamais vu.
Thierry Breton accuse X, l'ancien Twitter, de colporter des fake news sur l'actualité en Israël.
Désormais, il y a une loi qui régule les réseaux sociaux et les grandes plateformes en Europe. On est là pour faire respecter la loi.
Dans les heures qui viennent, avec le ministre en charge du numérique, nous aurons l'occasion une nouvelle fois de rappeler extrêmement fermement aux réseaux sociaux leurs responsabilités. Diffuser des images ignobles, des contenus de haine, ça ne peut pas fonctionner simplement pour faire de la publicité, quelle que soit la nationalité de l'entreprise que l'on dirige.
Alors la guerre en Ukraine en février 2022 avait déjà donné lieu à une déferlante d'images sur les réseaux sociaux. On parlait d'ailleurs à l'époque de la première guerre sur TikTok. Depuis le 7 octobre 2023, assiste-t-on, Julien Pain, à du jamais vu avec un déluge de contenu peut-être encore plus important, encore plus violent sur les réseaux sociaux?
Alors moi, ça fait un moment que je suis ce qui se passe sur les réseaux, que je fact-check, donc je passe mon temps à vérifier ces informations-là. Et honnêtement, c'est du jamais vu. Alors, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, que c'est un conflit qui est ultra émotionnel, ultra suivi en Europe, qui déclenche des passions énormes depuis des dizaines d'années. Et puis ensuite, je pense que les réseaux sociaux sont arrivés, est-ce que c'est à maturité ou au contraire... Est-ce qu'ils sont arrivés à leur point de retour? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'intox, beaucoup plus de désinformation qui circulent sur ce conflit en ce moment. Si on prend ne serait-ce que l'attaque de l'hôpital qui s'est passée cette semaine, j'imagine qu'on va en parler. J'ai vraiment été marqué parce que dans ma carrière, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire il suffisait d'ouvrir ses réseaux sociaux pour avoir non pas une fausse info parmi 10, mais parfois la moitié de fausses infos, des versions complètement contradictoires, des faux témoignages, de faux journalistes qui s'exprimaient, et tout ça qui s'est créé en quelques minutes. Donc c'était impressionnant.
Oui, c'est pour ça qu'on parle justement de submersion, hein, finalement, de l'utilisateur qui essaye de s'informer et qui se trouve parfois même malgré lui confronté à ce flot d'images. 166 millions de messages liés au conflit a comptabilisé la société de veille Visibrain. À titre de comparaison, c'est 47% de plus qu'un événement plus heureux. Comme la Coupe du Monde de football, c'est dire à quel point justement les réseaux sociaux sont importants dans ce conflit. Importants aussi car ils sont utilisés, Julien Pain, comme arme de guerre. Lorsqu'on a vu justement les combattants du Hamas avec leur smartphone qui est parfois positionné, telle une caméra embarquée, filmer les exactions, filmer les actes de barbarie pour instantanément les diffuser. Donc il faut concevoir aussi ces réseaux comme une arme.
Clairement, c'est utilisé comme une arme de propagande, alors par l'État d'Israël aussi, mais les combattants du Hamas, on l'a vu, nous on a travaillé sur des heures de vidéo. Entre parenthèses, c'est très compliqué pour les équipes, hein, parce qu'on a vu des vidéos absolument atroces, et ça fait des semaines qu'on voit ça tous les jours, c'est très difficile. Effectivement, ils embarquent la caméra, ils montrent tout, et ça c'est très étonnant avec le Hamas, qui est donc un groupe terroriste qui vraiment, comme d'autres groupes terroristes d'ailleurs, mais affiche en permanence la barbarie de ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils ne cachent rien. Là, on les a vus rentrer maison par maison et se filmer en train de chercher les survivants, d'aller les traquer jusque dans les toilettes. J'ai vu des vidéos où on voyait, dans cette rave party qui a été attaquée par le Hamas, on les voyait finalement finir par tirer, ils se filmaient en train de tirer dans les toilettes fermées, donc complètement de façon indiscriminée, pour aller tuer le moindre survivant, abattre les gens sous les voitures, et ils filment la barbarie sans aucun filtre. Donc c'est très différent de la communication de l'État d'Israël, on pourra en parler aussi, qui veut montrer qu'elle va riposter, qu'elle sera capable d'écraser le Hamas, mais qui essaye de montrer que c'est une armée de métier, une armée régulière, et donc qui a pas les mêmes codes. Le Hamas, c'est absolument bouleversant, les images que j'ai vues ces derniers jours, va très très loin dans la façon de montrer la barbarie.
Oui, c'est ça, de toute façon, le principe même du terrorisme, c'est de semer la terreur, c'est d'effrayer les gens. Donc la vidéo est utilisée justement pour semer la terreur dans les foyers et un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a une mondialisation de ces pratiques terroristes. Hugo Micheron, dans quelle mesure d'ailleurs les vidéos du Hamas reprennent-elles l'école de Daesh? Vous avez beaucoup travaillé sur Daesh et l'esthétique de Daesh.
Oui, c'est précisément ça. Ce qui est le premier élément qui est très très frappant avec l'attaque du 7 octobre, c'est justement que le Hamas utilise donc des méthodes et une grammaire aussi à travers la vidéo qui était celle qu'a utilisé Daesh pendant toute la période de la guerre en Syrie. C'est-à-dire justement ce que vous évoquiez, à savoir montrer les exactions dans les moindres détails, les mettre en vidéo et avec ce côté snuff movie, c'est-à-dire presque amateur, y compris dans le montage et en s'inspirant également beaucoup des codes des jeux vidéo.
Pour montrer une forme d'authenticité, le côté peut-être snuff
movie. D'authenticité et puis c'est aussi, il faut pas oublier, donc la dimension terroriste qui cherche à terroriser mais aussi à sidérer. Et dans ce cas-là, en allant très très loin dans la barbarie et en s'en félicitant, ça permet de sidérer, donc de paralyser d'une certaine manière aussi l'ennemi en faisant peur, hein, en montrant qu'on est capable d'aller très très loin. Ce qu'il faut voir en fait, qui est assez surprenant avec le Hamas, c'est que c'est un groupe qui, on parle d'une seule attaque très grave, ultra rapide, par surprise et d'une violence inouïe, mais d'une seule attaque qui, en fait, a été déflagratoire, puisqu'on voit désormais les conséquences au Proche-Orient, on est dans l'inconnu, et potentiellement aussi en Europe. Ça, c'est uniquement lié à la capacité de la guerre informationnelle en fait du Hamas,
de la caisse de résonance,
de la caisse de résonance
que les réseaux sociaux peuvent offrir.
Et je pense qu'il faut vraiment comprendre que là où on a changé de monde, c'est que cette guerre informationnelle, c'est une guerre à part entière. C'est-à-dire qu'on a eu des guerres par terre, par mer, par air, dans le cyberespace. Maintenant, il y a un espace informationnel avec non seulement des images et des militants qui vont les commenter ou les attaquer, mais aussi des robots et notamment l'intelligence l'intelligence artificielle générative qui permet maintenant de gonfler les contenus, et on voit que ceux-ci sont à l'œuvre dans ce conflit, notamment en Europe, des robots, qu'ils soient iraniens, russes, chinois. Donc il y a aussi déformation, si vous voulez, du contenu et de son volume par l'entrée en jeu d'acteurs qu'on ne voyait pas a priori directement liés au conflit israélo-palestinien.
Ophélie Coelho, justement, quand on parle de guerre dans le cyberespace, qui est donc un nouvel espace qui est maintenant investi, il y a souvent deux volets, la guerre informationnelle qu'on a effleurée à l'instant, et aussi les cyberattaques. Est-ce que on a pu ici attribuer, identifier dans le cas de ce conflit, des cas de cyberguerre, de cyberattaque, où elles sont peut-être encore soit non identifiées, soit finalement inexistantes ou peu existantes?
Alors oui, il y a des cyberattaques, ça c'est évident. Il faut dire que tout conflit aujourd'hui, de toute façon, implique l'arme numérique, puisque le numérique est un outil. Donc en effet, il y a des cyberattaques. Après, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce qui sont pas toujours avérés. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, surtout, c'est que c'est le secteur gouvernemental donc, qui a été le plus touché, un peu plus de 40%, c'est-à-dire des sites internet du gouvernement qui ont été touchés. Et principalement, aujourd'hui, il y a un grand acteur en fait qui a été identifié et des plus petits acteurs. Le plus gros groupe de pirates informatiques qui a été identifié, c'est Silat Gang, qui est en fait un groupe de hackers bangladais. Donc voilà, et pro-palestinien plutôt pour le coup, mais il y a aussi de toute façon des cyberattaques de l'autre côté. Chaque camp en fait essaye de solliciter l'outil numérique à son avantage.
Voilà, d'où cette guerre constante. Les cyberattaques, c'est parfois une guerre qui peut nous échapper. On sait qu'on a aussi des grands problèmes d'attribution hein, pour savoir identifier quel est l'émetteur. Dans les outils qui sont utilisés justement dans ce conflit-là, il y a évidemment Telegram qui a une particularité, c'est qu'il y a quasiment pas de modération sur ce réseau social d'origine russe qui a été fondé à la base par un dissident russe. Ça fonctionne par boucle. Comment vous observez, Julien Pain, Telegram? J'imagine qu'en tant que journaliste, c'est des réseaux dans lesquels vous êtes pour analyser ce qui s'y dit, ce qui s'y passe. Quel est le rôle de Telegram?
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a tendance, quand on est journaliste, à s'intéresser d'abord à Twitter, parce que c'est l'outil des journalistes, donc on est tous sur Twitter, et on peut avoir cette impression, si on ne connaît pas bien l'outil, que la source primaire d'information, c'est Twitter. C'est-à-dire qu'en fait, on voit des vidéos d'y circuler, on voit des informations circuler, on a l'impression que c'est la source primaire. On s'aperçoit maintenant que la source primaire, c'est vraiment Instagram. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur...
Instagram ou Telegram?
C'est Telegram. Donc sur des boucles Telegram, il y a vraiment, notamment le Hamas, à sa boucle Telegram a explosé ces derniers temps, sans mauvais jeu de mots, et il publie toutes les vidéos qu'ils font eux, mais aussi des vidéos qu'ils vont récupérer ailleurs, qui montrent donc leur action en cours, les réactions. La dernière fois, je les voyais, ils publiaient les réactions de Jean-Luc Mélenchon sur leur boucle Instagram, ainsi que d'autres hommes politiques.
Telegram, hein, vous êtes un peu trop sur Instagram, Julien.
Telegram, et même Emmanuel Macron. Donc en fait, la source primaire, c'est vraiment Telegram, et ensuite tous ces contenus arrivent sur Twitter, et c'est ça, je pense, la révolution de ces dernières années-là.
On voit que Telegram est effectivement une sorte de laboratoire, finalement, où on va s'échanger des vidéos, les tester pour les envoyer sur des canaux un peu plus importants. Hugo Micheron, vous qui travaillez justement sur le djihadisme depuis longtemps, Telegram historiquement a été utilisé par ces groupes-là.
Oui, tout à fait. En fait, dès la guerre en Syrie, on avait vu les groupes, notamment Daesh, qui s'organisaient sur Telegram, avec l'idée au début que c'était peut-être plus dur à infiltrer pour les services de renseignement occidentaux, puisque c'était justement une plateforme russe. Alors, il se trouve que ça a été moins le cas, mais il faut se souvenir, par exemple, du cas d'un individu assez connu en France, qui s'appelle Rachid Kassim, qui était un djihadiste de Daesh, qui était à Raqqa en 2016, et qui téléguidait littéralement des attaques en France depuis Raqqa via Telegram. Et c'est lui qui a, par exemple, été derrière l'assassinat du couple de policiers à Magnanville en juin 2016, ou bien du prêtre à Saint-Étienne-de-Rouvray en juillet 2016. Et donc, tout l'été 2016, la série d'attaques qui se produit en France est largement téléguidée depuis Telegram. Donc, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, et ça vient d'être souligné, c'est notamment l'ampleur de l'usage, et puis ces boucles qui fait qu'en fait, maintenant, des groupes comme le Hamas, mais et d'autres peuvent diffuser des messages vers des sympathisants qui ensuite vont se déporter vers d'autres réseaux sociaux. Donc il y a aussi des logiques d'interopérabilité d'une certaine manière entre les réseaux sociaux, avec des réseaux qui ont une certaine fonction et d'autres une autre. Typiquement sur Twitter, on ne va pas faire la même chose que sur Telegram et encore moins sur Instagram ou Facebook. Et ça dépend aussi d'ailleurs des pays. Ce qui est impressionnant de voir dans la période actuelle, c'est ce que vous évoquiez aussi en introduction, c'est le brouillard de guerre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le niveau de désinformation est telle qu'en fait, j'ai envie de dire, un observateur extérieur honnête qui chercherait simplement à s'informer se retrouverait en proie au doute en permanence. Et ça, c'est un moteur très très puissant du conflit, puisque ne pas savoir sur quel à quel sein se vouer ou sur quel pied danser par rapport à l'information qu'on a, c'est le risque d'être emporté par celui qui fait le plus de bruit. Et donc, à nouveau, le milieu informationnel est une composante déterminante de la guerre. Par exemple, le Hamas est un petit groupe en termes opérationnels, notamment si on le compare par exemple au Hezbollah, qui est un de ses alliés, le groupe libanais chiite, qui menace en ce moment Israël. Quand on regarde les capacités militaires du Hezbollah, elles sont mais beaucoup plus puissantes que celles du Hamas. Et pourtant, dans la période actuelle, il est totalement éclipsé. Pourquoi ? Parce que le Hamas a compensé en fait sa faiblesse a priori militaire et opérationnelle par une énorme puissance de frappe informationnelle, et c'est ce qui fait que quelque part, ils ont compensé cette asymétrie au regard du monde.
Ophélie Coelho, d'ailleurs, dans quelle mesure justement les réseaux sociaux et leur interface suscitent et provoquent finalement les réactions à chaud, finalement tout ce qu'il ne faut pas faire si on veut essayer d'avoir une lecture la plus sereine, la plus distanciée par rapport à des événements qui, comme vient de le dire Hugo Micheron, nous dépassent. On est dans le brouillard et on a l'impression finalement que ces réseaux sociaux sont faits pour nous encourager à y être encore davantage.
Oui, alors ce qui est très intéressant avec les médias sociaux, les outils de propagande sont pas nouveaux en fait. Le média social remplace en fait une série d'outils qui va de la peinture historique à l'époque et qui était un outil de propagande, qui donnait en fait, qui glorifiait les dirigeants et au contraire les ennemis. La photographie, la presse, la radio, la télévision et aujourd'hui le web. La différence en effet, c'est qu'on a une masse d'informations auxquelles l'utilisateur doit faire face. Souvent, il est devant son écran face à des informations qu'il a du mal à aller vérifier et il y a cet effet de chambre d'écho ou de bulle de filtre qui là encore pourrait être comparé à ce qui se passe quand on a un phénomène de rumeur de base, c'est-à-dire que l'opinion publique, de bouche à oreille si vous voulez, une information, la rumeur peut faire beaucoup de dégâts sur l'opinion qu'on peut avoir d'un événement déformé et la difficulté à retrouver sa source. Donc il y a un effet un peu similaire à celle de la rumeur populaire avec le média social. Le fait est que un outil par exemple comme Twitter, mais également TikTok par exemple, qu'il y a non seulement une instantanéité, une capacité de diffuser très rapidement l'information, une information qui souvent est simplifiée à l'extrême puisqu'on a des contenus qui sont très courts, et cette simplification à l'extrême fait que l'utilisateur finalement a assez peu de possibilités, ou en tout cas n'a pas le réflexe aussi d'aller chercher plus loin. Cela formate nos manières de penser, et aujourd'hui quand on parle notamment du fait que les entreprises vont chercher à stimuler, en tout cas à récupérer nos capacités d'attention, notre temps de cerveau disponible, on est tout à fait sur ces mécanismes-là quand il s'agit de propagande. On va avoir des acteurs qui sont à la fois des acteurs gouvernementaux, des associations, des entreprises, qui vont tenter comme ça de récupérer le temps de cerveau disponible et de propager de plus en plus d'informations à leur avantage, évidemment.
Et Julien Pince, justement, tout à l'heure, parlait d'un contexte très émotionnel, ce qui va évidemment avec cette propagation de l'information. Hugo Micheron.
Et avec le phénomène de rumeur populaire. Là-dessus, c'est vraiment un point commun avec la rumeur populaire. C'est le fait que, généralement, on va toucher aussi des centres émotionnels, en fait, des sujets très, 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 très importants pour l'opinion.
Hugo Micheron, en quoi, justement, on voit qu'il y a eu aussi une imbrication entre les problématiques intérieures et extérieures? On sent d'ailleurs que Twitter propose ça, finalement, avec justement une sorte d'imbrication entre les enjeux extérieurs et intérieurs. On a du mal à s'y retrouver, on a l'impression d'un grand tout, finalement.
Oui, tout à fait. Alors, ça tient à plusieurs choses. Déjà, je crois qu'il y a deux éléments propres au contexte. Le premier élément, c'est le conflit israélo-palestinien, depuis toujours, est une matière très, très inflammable. Le deuxième élément, pour ce qui s'agit de l'Europe, c'est que la question de l'islamisme est très, très inflammable. Donc là, on a deux matières très inflammables, et il y a eu une bonne grosse allumette de craquer. Donc, ça a enflammé, comme on dit, les réseaux sociaux. Ça, c'est l'élément circonstanciel. L'autre élément, c'est la façon dont fonctionnent les réseaux sociaux. C'est-à-dire que jusque-là, et donc typiquement, par rapport aux moyens de propagande historique qui viennent d'être appelés, que ce soit le tableau, la différence, c'est que tout ça appartenait quand même au monde physique. Donc, si vous vouliez montrer une peinture, il fallait la déplacer ou fallait déplacer les gens devant la peinture. À l'inverse, sur Internet, sur les réseaux sociaux, la diffusion ne tient pas compte des frontières. La barrière à la diffusion d'une information sur les réseaux sociaux, c'est le topos. C'est pour ça qu'on parle d'environnement topologique. C'est-à-dire que soit vous êtes connecté à la communauté en question qui a pour cause la même que vous, une cause proche de vous, et dans ce cas-là, l'information va vous parvenir. Soit vous vivez en dehors de cette boucle, et dans ce cas-là, l'information va pas vous parvenir. Mais ça, ça peut se passer entre vous et votre voisin, voyez. Mmh. Alors que dans le monde réel, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, cette dimension topologique de la diffusion de l'information par les réseaux sociaux, boostée par la logique algorithmique qu'on connaît bien des GAFAM notamment, fait que un événement déflagratoire en Israël-Palestine peut toucher immédiatement des gens en Europe, en France, à Paris ou ailleurs, mais aussi que ces gens-là vont réinterpréter toute cette information à l'aune de leur environnement physique et de leur environnement politique. Et c'est comme ça qu'on se retrouve notamment sur mes sujets, ce que j'essaye d'expliquer dans mes recherches, avec une question palestinienne qui explose à Gaza, et en réalité des gens qui, au nom de celle-ci, vont vouloir passer au djihad contre un enseignant à Arras, par exemple. Et ça, si on ne comprend pas cette dimension topologique qui est propre aux réseaux sociaux, on va passer à côté de tout ce phénomène de réinterprétation qui est propre à ça.
Alors, vous évoquez l'attentat à Arras qui est survenu quelques jours après. Justement, comment on peut essayer d'imaginer une corrélation? C'est compliqué l'imaginer. Mais...
De facto, il n'y en a pas sur le papier, puisque d'un côté, on a le conflit israélo-palestinien, et de l'autre côté, on a un djihadiste d'origine russe qui décide d'aller tuer un professeur dans son ancien...
On présente comme un loup solitaire ayant agi seul, etc. C'est comme ça qu'on le présente.
Oui, mais ce qu'il n'est pas par ailleurs, puisqu'on voit qu'il y a un environnement radicalisé autour de lui, qu'il y a son frère est en détention, il a tenté lui-même de faire un attentat, un autre de ses frères était présent à côté d'un autre lycée, donc il y avait plutôt là une meute, pour reprendre l'expression, qu'un loup solitaire. Mais tout ça pour dire que a priori, il n'y en a pas, sauf qu'il y a quand même eu du côté du Hamas un appel à passer à l'attaque, notamment en Europe, et il l'a appelé au monde entier, donc à s'en prendre à un certain nombre de...
Sur un jour bien défini, qui était ce jour-là.
Ce vendredi 13, là. Donc, encore une fois, les interfaces, c'est les êtres humains. Donc, ils reçoivent un message, il se trouve qu'il y a des djihadistes en Europe qui sont prêts à interpréter le message, puis après, eux, ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle les attaques inspirées, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée qui circule, et puis il y a des individus qui, à un moment donné, décident de l'appliquer un peu selon leurs conditions. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que la montée de tension qu'on voit au Proche-Orient peut avoir des conséquences sur l'Europe, tout simplement parce qu'il y a ces phénomènes qui sont perméables entre l'un et l'autre.
Julien Pain, tout à l'heure, vous avez parlé effectivement aussi d'Israël, qui était actif dans cette guerre informationnelle. Quels sont leurs outils, en fait? Comment ils mènent leur action? En introduction, j'ai parlé d'achat d'espaces publicitaires, notamment sur des jeux en ligne ou sur YouTube. Quels sont les outils qui sont employés par l'armée israélienne pour apporter un contre-discours, pour faire passer également leur message ou susciter l'adhésion de l'opinion internationale?
Alors, on le sait, les Israéliens ils ont une armée qui est très forte pour communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Ils le font depuis très très longtemps. Donc ils refont ce qu'ils font d'habitude, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, par exemple, de vidéos très bien faites, pour le coup très institutionnelles, avec des généraux qui parlent, des avions qui décollent, des frappes chirurgicales sur des immeubles toujours prises de très loin, etc. On n'est pas du tout dans les vidéos du Hamas avec du combat de rue. Ils sont pas encore entrés, mais je veux dire, il y a pas de combat au corps à corps, etc. C'est pas du tout la logique qui est celle du Hamas. Ils payent effectivement des contenus. Alors ça, c'est un problème. Est-ce que les plateformes devraient accepter ce genre de financement?
Alors expliquez-nous exactement pour bien comprendre, pour exemple, celles et ceux qui ne sont pas tombés sur ces campagnes-là.
Par exemple, sur YouTube, ils vont tout simplement payer des publicités qui vont arriver avant les vidéos que vous regardez. Donc en plus, ça peut être des vidéos qui vont... Si vous regardez une vidéo sur le Moyen-Orient ou sur l'Islam ou que sais-je, vous allez tomber peut-être sur une pub financée par l'armée israélienne. Donc... La question, c'est est-ce que les plateformes, elles ont raison de passer ce genre de contenu? Ça, je sais pas. Donc, c'est une forme de communication extrêmement moderne, mais avec l'armée israélienne, on est habitué, hein. Ils le font depuis des années.
Voilà, on sait très bien que Tzahal a des comptes sur les réseaux sociaux. Depuis le début, d'ailleurs, des comptes en plusieurs langues, avec notamment un compte français qui est très actif pour, quelque part, prolonger et puis nourrir cette proximité avec les citoyens du monde entier, encore une fois, pour essayer d'influencer sur l'opinion internationale. Pour prendre un cas concret, justement, qu'on a vécu, et vous l'avez souligné tout à l'heure, Julien Pain, avec cette explosion à l'hôpital Al-Ahli ou à Gaza, où bien sûr chacun s'est renvoyé la balle en attribuant ce drame à l'un ou à l'autre. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à ce que vous avez pu analyser des vidéos? Et déjà, est-ce qu'on peut dire qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on doit dire qu'on ne sait pas?
On a intérêt à le dire, il faut le dire. Parce que quand on parle de brouillard informationnel, je pense que là, c'est vous le chercheur, hein, mais je pense qu'on a un cas, mais d'école.
Ouais,
c'est incroyable ce qui s'est passé.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on est parti sur une version où c'était les Israéliens. Mmh. Ensuite, les Israéliens ont démenti.
Qui ont d'ailleurs été repris par des personnes qui représentent des institutions, des partis politiques ici en France, qui redonnent du crédit évidemment à cette version-là.
Voilà, donc ils sont partis sur cette version. Ensuite, les Israéliens sont arrivés avec des vidéos, quand on parlait d'OSINT, donc d'enquête visuelle, où ils essayaient de prouver avec des vidéos que non, c'était une roquette.
Notamment des images d'Al Jazeera qui ont été, je crois, diffusées en direct.
Voilà, donc ils ont analysé ces images pour essayer de le montrer, sauf qu'ils ont aussi utilisé des images qui étaient fausses. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été très compliqué parce qu'ils ont eux-mêmes essayé de défendre leur point de vue, mais en utilisant des images fausses. Ensuite, en utilisant des analyses d'images qui semblent plutôt vraies, en tout cas sur lesquelles il y a des vraies questions. Par exemple, je donne un exemple. Il y a des images qui sont sorties où on voit la cour dans laquelle serait tombée la bombe, la roquette. En tout cas, c'est là qu'il y a eu l'explosion. C'est vrai que quand on analyse c'est un parking. Sur ce parking, il n'y a pas un cratère de bombe. Donc on l'a montré à des experts. C'est pas possible qu'une bombe israélienne, on connaît bien l'impact de ces énormes bombes israéliennes qui sont jetées sur les immeubles. C'est pas possible qu'une bombe israélienne soit tombée là. Mais ça veut pas dire que c'est pas les Israéliens. Ça pourrait être un missile. Le temps de l'enquête, c'est long. Et puis je rappelle aussi un élément déterminant, c'est que personne, en tout cas aucun investigateur, enquêteur indépendant ne peut se rendre sur place. C'est les Palestiniens qui sont sur place. Et pour l'instant, les débris qui seraient la preuve formel que c'est les Israéliens ou que c'est une roquette palestinienne, ces débris, on les a toujours pas vus.
Parce que c'est une question importante, Julien Pin, justement, sur l'accessibilité à Gaza. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pas de journaliste, aucun journaliste ne peut officiellement rentrer ou techniquement rentrer à Gaza.
Bah, y a des journalistes d'Al Jazeera, par exemple.
Voilà, je parle là de journalistes, on va dire, occidentaux. Bah, vous, par exemple, France Info, on est d'accord, vous pouvez envoyer personne
non,
à Gaza.
Non, il n'y a pas de journalistes occidentaux à ma connaissance. En tout cas, France Télévisions, aucun, c'est sûr. Et les seuls qui sont effectivement là-bas et qui couvrent tout, c'est Al Jazeera et certains médias arabes.
Mais on voit aussi des journalistes effectivement palestiniens, notamment sur Instagram. Vous en parliez tout à l'heure, que vous devez peut-être suivre. On voit aussi la situation de l'intérieur, parce que c'est toujours pareil. À partir du moment où Gaza est dans un angle mort, c'est très compliqué d'avoir des informations. Puis c'est aussi l'objet de nombreux fantasmes. Qui essayent de rendre compte, avec le peu d'électricité qu'ils arrivent à avoir, de la situation sur le terrain.
Voilà, mais le problème qu'on a, c'est que donc, quand on veut vérifier quelque chose aussi grave qu'une frappe, il faut aller sur place pour récupérer les débris. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, l'OSINT,
la recherche, donc l'OSINT, pour rappeler, ça permet de faire des enquêtes, non pas sur le terrain, mais sur le terrain du cyberespace, en analysant les données disponibles, parfois des ressources ouvertes, pour essayer de reconstituer un récit ou des événements.
Et l'OSINT, on en fait tout le temps, mais ça a ses limites. C'est-à-dire que là, quand on ouvrait Twitter, on avait l'impression que toutes les réponses étaient déjà sur Twitter quelques heures après. Des gens qui expliquaient aucune roquette palestinienne ne pourrait faire de tels dégâts. Ou le feu peut très bien tuer autant de gens, parce qu'il y a quand même, ils ont annoncé au départ 500 morts. Et on n'en sait rien, en fait. Pareil, le bilan des morts, est-ce que c'est 500, est-ce que c'est 50? On n'en a aucune idée. Et là, il y avait des internautes qui avaient la réponse et qui disaient, mais oui, 500, c'est possible. Mais en fait, encore une fois, si on regarde l'image, c'est un parking. Sur ce parking, combien de personnes étaient là? On ne sait pas. Est-ce que ça a pu faire 500 morts? On n'en sait rien, parce que les immeubles autour sont toujours debout.
Hugo Michron, on a quand même l'impression, justement, qu'on n'a jamais été autant dans cette incertitude-là. Pourtant, on se dit, c'est à Gaza, c'est sur un territoire, il y a quand même des gens, il y a des images. Enfin, ça paraît à la fois dingue, ce côté complètement paradoxal de l'hyperconnexion. On a l'impression qu'on peut tout savoir instantanément de ce qui se passe à l'autre bout du monde, et ce flou total.
Oui, et d'ailleurs, le fait simplement d'être dans le flou sur des faits aussi importants et par ailleurs qui a priori seraient, enfin, ne sont pas impossibles à démontrer. On n'est pas dans un tunnel, dans un souterrain à Gaza, etc. On est vraiment à l'air libre, etc. Il y a des journalistes malgré tout sur place, il y a des images d'Al Jazeera. Le fait qu'on soit dans ce flou, c'est presque le cœur de l'enjeu, en fait, parce que à partir du moment où soit on est dans le flou, soit il y a tellement de versions contradictoires qui sont elles-mêmes contredites, etc., que en fait plus personne ne peut se faire une opinion fixe, et ben après on croit ce qu'on veut. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans des lectures biaisées de tous les côtés des événements, et que, encore une fois, la possibilité de créer un récit commun, ne serait-ce qu'autour de l'affrontement, disparaît totalement. Et donc, dans ces contextes-là, celui qui gagne, c'est celui qui fait le plus de bruit. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir s'intéresser, et c'est pour ça que je parlais de guerre informationnelle comme étant un espace à part, en plus du maritime, du terrestre, du spatial, du cyber, etc. C'est que dans ce contexte-là, dans ce contexte de guerre comme ça, les acteurs, que ce soit des organisations comme le Hamas ou bien des États, qui vont être capables de générer du contenu et de le générer en masse, vont être ceux qui, entre guillemets, vont gagner la guerre. Et c'est pour ça que l'arrivée de l'IA, l'intelligence artificielle générative, donc l'exemple le plus connu, c'est ChatGPT, mais il existe 25 000 modèles du même type, qui permet en fait à n'importe quel individu,
n'importe quel analphabète, pardon de parler comme ça, mais de devenir un propagandiste en chef, en générant des contenus par milliers et en les diffusant ensuite sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on va avoir des gens qui vont être capables de publier n'importe quel type de contenu en fonction de leurs envies, en masse, et de le diffuser sur les réseaux sociaux. Et donc le bruit va monter. Et ce qui a toujours été la permanence d'une guerre, à savoir... Quand on fait du renseignement, bah d'ailleurs, comme quand on fait du journalisme, etc., on cherche à savoir ce qui est vrai. C'est l'information, on doit la vérifier, etc. Maintenant, la difficulté, enfin l'impossibilité de savoir ce qui est le vrai est déjà là. On le voit avec cette frappe. Et donc la question, ça va être de pouvoir dire ce qui est faux. Et il va y avoir énormément de contenu faux.
Mais là, vous avez raison. Mais je reprends justement un exemple très récent aussi qui est lié à l'intelligence artificielle générative, ou du moins une suspicion d'usage de l'intelligence artificielle générative. C'est le cas de cette photo de bébé brûlé qui a été brandie par Benjamin Netanyahou et qui a tout de suite été pointée du doigt comme étant, attention, c'est une photo donc présentée comme vraie, mais qui aurait pu être générée par l'intelligence artificielle. Donc on voit que...
C'était
pas le cas, mais c'était ce qui a été pointé du doigt. Donc on voit que l'IA permet de générer du faux, mais de mettre en doute aussi potentiellement le vrai. Quels sont les outils ?
C'est ça le plus dangereux, c'est qu'en fait, au final, ça crée un monde informationnel où on n'est plus sûr de rien. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on retient de tout ça pour les... Alors nous, c'est notre métier et on travaille tout le temps dessus. Mais pour les gens qui ouvrent Twitter, ils finissent par dire, bon, finalement, on est sûr de rien. Parce qu'à chaque fois qu'on nous annonce quelque chose, c'est de l'IA, bah c'est peut-être pas de l'IA. Là, les photos, on nous dit, c'est tellement facile à faire que finalement, pourquoi je me fierais à une photo plutôt qu'à une autre ?
Est-ce qu'il y a un outil crédible, Julien Pain ? Est-ce qu'il y a un outil crédible aujourd'hui qui existe pour attester qu'une image a été trafiquée ou générée par l'intelligence artificielle ou pas? Parce qu'on a vu que sur ce cas de figure, un outil a été utilisé, IA Hornet. Un coup, il dit c'est généré par l'IA, le coup d'après, il dit ça ne l'est pas.
Mais ça fait partie des espèces de mythes. Bon, on en parle souvent, on me dit, mais est-ce qu'il y a un outil dans lequel je peux passer ma photo ou même ma fausse information et ça va me ressortir avec un tampon vrai ou faux? Mais ça, c'est un mythe. Autant les outils pour créer des fausses informations, ils existent maintenant et de façon industrielle, autant nous, on n'a pas ce type d'outils. Et les outils d'analyse d'images, alors évidemment, ça plaît beaucoup de les montrer, enfin, c'est très techno, donc ça plaît en général d'expliquer ça, mais moi, qui travaille dessus tous les jours de ma vie, ces outils d'analyse d'images me servent très très peu. Ce dont je peux vous parler, moi, c'est d'enquête journalistique. C'est-à-dire que oui, on fait de l'analyse d'images, mais enfin, c'est de l'enquête journalistique. On passe des coups de fil, on contacte des gens, on montre à des experts.
Donc il n'y a pas d'outils magiques, effectivement.
Et on utilise des outils, mais faut... Alors, l'outil dans lequel on va rentrer une photo, il va vous rentrer avec un tampon, alors ça, on oublie, ça n'arrivera pas, je pense.
Alors, vous parlez justement de mythes, mais je vais vous proposer une chanson mythique. Imagine, tel un armistice musical, mais Imagine revisité par le groupe Perfect Circle pour nous amener aussi une forme de justesse, un Imagine qu'on aimerait possible, mais qui reste encore aujourd'hui teinté d'un certain filtre un peu sombre, mais qui est celui de la réalité.
France Culture. Le meilleur des mondes, François Saltiel.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die.
Imagine de John Lennon, repris évidemment ici par le groupe américain A Perfect Circle dans le meilleur des mondes sur France Culture. Et tout de suite, c'est l'heure de notre journal.
Les nouvelles d'un monde meilleur. Juliette Deveau.
Et on commence ce journal avec une loi adoptée la semaine dernière dans l'État de Californie, une loi du nom de Delect Act qui donne la possibilité aux internautes californiens de demander la suppression de l'intégralité de leurs données personnelles laissées sur le web. Derrière cette avancée législative, ce sont ceux que l'on appelle les courtiers en données qui sont visés, ces entreprises spécialisées qui rachètent nos données personnelles aux sites et plateformes auxquelles l'on s'inscrit en fournissant naïvement nom, prénom, âge et adresse pour les revendre ensuite à des fins marketing à d'autres entreprises. Avec cette loi portée par l'élu démocrate Josh Baker, les citoyens californiens auront ainsi la possibilité bientôt d'accéder à un portail numérique pour demander en un clic la suppression de toutes leurs données récoltées jusqu'alors sans s'adresser laborieusement à chacune des plateformes. Une loi concrète et précise qui contient en son sein les modalités techniques de son application. L'on ne peut qu'espérer que l'exemple californien inspire à l'avenir nos parlementaires français lors de la conception de nos futures lois sur le numérique.
Et l'on poursuit ce journal, Juliette, avec une intelligence artificielle qui, ici, ne sert pas le pire, mais sert à détecter les feux de forêt.
Et oui, c'est une initiative que l'on doit à une dizaine de jeunes ingénieurs français qui ont développé un système reposant sur l'intelligence artificielle pour nous aider à détecter le plus tôt possible les feux de forêt. Ces ingénieurs bénévoles travaillent ainsi depuis 2019 au sein de l'association Pyronnière sur ce système de détection low-tech reposant principalement sur deux technologies. Un réseau de caméras placé stratégiquement dans la forêt pour capter les potentiels nuages de fumée et un micro-ordinateur doté d'un logiciel d'intelligence artificielle entraîné sur des milliers d'images à reconnaître les indices d'un départ de feu. Aujourd'hui testé dans la forêt ardéchoise en partenariat avec les pompiers du département, ce système de détection développé sous licence libre tend à s'améliorer au fil du temps et devrait bientôt se déployer dans d'autres régions françaises et pourquoi pas plus tard dans d'autres régions du monde.
Et l'on termine ce journal par une plateforme qui, elle, est diffusée dans toutes les régions du monde. C'est Spotify qui fête son anniversaire.
Et oui, Spotify fêtait ses 15 ans la semaine dernière et la plateforme de streaming audio la plus utilisée dans le monde en a profité pour révéler le classement des artistes les plus écoutés sur sa plateforme ces dernières années. Les conclusions tirées du rapport de Spotify sur l'évolution de la consommation musicale en France sont sans appel. Le rap s'est largement imposé face au rock en l'espace de 15 ans. Si l'on écoutait en 2008 majoritairement Coldplay ou The Killers, ce sont désormais les rappeurs qui sont à l'honneur. Le classement de tête en France étant occupé par Jul, PNL ou Nekfeu. Et ce succès ne s'en cantonne pas à l'Hexagone, puisque les rappeurs français sont également largement écoutés à l'étranger, si l'on en croit les données transmises par Spotify. Si l'on peut déplorer l'absence de femmes dans les classements de top écoute, on peut tout de même se réjouir de la visibilité acquise par un genre musical longtemps écarté des canaux d'écoute traditionnels. Une preuve que le web social peut aussi être mis au service d'un monde meilleur.
Et le flow de Juliette Deveau est à retrouver en podcast sur l'application Radio France. Nous sommes dans le meilleur des mondes et ce soir nous nous intéressons à la manière dont les réseaux sociaux et les autres outils numériques sont utilisés dans le conflit qui oppose Israël au Hamas. Nous sommes en compagnie d'Hugo Micheron, docteur en sciences politiques, maître de conférences à Sciences Po Paris et auteur de La colère et l'oubli, les démocraties face au djihadisme européen, en compagnie du journaliste de France Info, Julien Pin, et en compagnie d'Ophélie Coelho, chercheuse indépendante qui a également fait paraître cette année un ouvrage géopolitique du numérique, l'impérialisme à pas de géant aux éditions de l'Atelier. Ophélie Coelho, on a justement évoqué juste avant l'armistice musical, cette difficulté de se repérer avec des images où on est complètement dans une confusion totale, un brouillard, on l'a dit. Il pourrait y avoir une solution justement pour nous éclairer, ce qui pourrait être un phare dans la nuit, c'est la loi et le règlement européen, le DSA, on l'a évoqué en début d'émission, le Digital Services Act, qui est censé encadrer, réguler ces plateformes, parce qu'on a beaucoup parlé des émetteurs, mais il faut maintenant s'intéresser au canal de diffusion et aux obligations qui incombent justement à ces différents canaux. Que peut le DSA aujourd'hui? Il vient d'être mis en application à la fin du mois d'août, il est donc confronté tout de suite à une expérience de terrain majeure. Est-ce qu'il est mort-né, ce DSA? Ou est-ce qu'on peut encore compter sur lui pour tenter de réguler ces plateformes et donc la désinformation ?
En tout cas, c'est une étape importante parce qu'il y a quand même une prise de conscience, notamment par la compréhension qu'il y a en effet des portes d'accès au marché et à l'information, et que ces portes d'accès doivent être régulées, en tout cas surveillées. Le problème, c'est que quand on parle de désinformation, on rentre dans une problématique, notamment dans nos sociétés, qui est de confronter d'un côté la liberté d'expression et la régulation excessive qui pourrait entraver la liberté de parole. Donc ça, c'est un premier défi, c'est comment est-ce qu'on fait en fait pour modérer, et à partir de quand une information peut-elle être considérée comme une désinformation ou bien ne pas respecter en quelque sorte les conditions d'utilisation dans un pays ou dans un autre. Donc ça, c'est un premier défi. Ensuite, concernant évidemment l'Europe et l'envie par le DSA de réguler les plateformes, encore faut-il qu'ils soient d'accord. Aujourd'hui, on a vraiment par exemple un exemple typique entre d'un côté la plateforme X, ex-Twitter, et en effet l'Europe avec Thierry Breton d'un côté et Elon Musk de l'autre, qui font en fait un bras de fer. Elon Musk qui menace de fermer Twitter pour l'Europe, et de l'autre côté Thierry Breton qui demande aux Européens d'aller sur Blue Sky. On a un bras de fer là-dessus qui est aussi celle de l'incompréhension de part et d'autre. Du côté de Elon Musk, une fausse incompréhension je pense, mais quelque part aussi une déresponsabilisation pour Elon Musk, qui considère qu'en gros il fait son travail, la plateforme fait son travail, il y a une modération. Alors clairement ils n'ont pas certainement pas suffisamment de modérateurs,
et ils ont même de moins en moins, Ophélie Coelho,
mais surtout ils n'en ont pas recruté plus alors que les besoins sont plus forts aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même un problème. Après, ils mettent en place des petits outils tels que par exemple signaler un abus par rapport à la législation européenne. Vous pouvez voir qu'il y a eu quand même un ajout dans les posts de Twitter adaptés soi-disant à la régulation européenne, mais en fait ça reste toujours à l'utilisateur quelque part de signaler en fait. Donc il y a un problème de modération. Comment est-ce qu'on modère aussi une information? Est-ce qu'on peut laisser dans les mains de plateformes puissantes comme ça, qui ont un poids informationnel important, est-ce qu'on peut leur laisser la liberté, la possibilité comme ça de choisir ce qui est une bonne ou une mauvaise information? On voit qu'on est quand même à une limite de l'application d'un pouvoir par une plateforme, chose auquel les États et évidemment l'Europe ne sont pas particulièrement préparés et n'ont pas les armes derrière pour vraiment négocier, puisque en Europe, on n'a pas, en tout cas pour l'instant, de plateforme qui a autant d'utilisateurs que ces grandes plateformes américaines ou chinoises, parce qu'on pourrait parler de TikTok. TikTok est également en discussion avec la Commission européenne sur ces sujets-là.
On voit d'ailleurs, pardon, Ophélie Coelho, on voit que TikTok a fait des efforts par rapport au rappel à l'ordre de Thierry Breton en supprimant quantité de contenu. Il en est de même du côté de Meta. En ont même, pour le cas de TikTok, des partenariats avec l'AFP. Du moins, ils ont montré une intention de se soucier de la situation, ce qui a été moins le cas de Twitter. Je reviens sur ce que vous disiez quand vous parliez d'Elon Musk qui menaçait de quitter l'Union européenne. C'est une information effectivement qui vient d'être publiée par Business Insider, mais qui a été contestée par Elon Musk lui-même, disant que c'était une fake news. Donc on voit effectivement que ce brouillard et que cette information est partout. Et je vous propose de réécouter, avant de poursuivre justement ce que peut faire le DSA et la loi sur cette question-là, et bien Thierry Breton, qui était tout satisfait il y a encore quelques mois de rencontrer Elon Musk, qui lui-même s'était déplacé, et tous les deux s'apprêtaient à vivre dans un monde meilleur.
We are in Austin together with Elon Musk. Thank you very much, Elon, for welcoming me.
Thank you, most welcome.
And of course,
nous sommes ici à Austin avec Elon Musk. Merci beaucoup pour votre accueil. Nous avons abordé de nombreuses problématiques et j'ai été heureux de vous expliquer le DSA, cette nouvelle régulation européenne que vous avez bien comprise et qui coïncide avec ce que vous faites déjà sur Twitter.
Oui, c'est exactement la ligne que je suis. C'était une bonne conversation. Je pense véritablement être d'accord avec tout ce que vous avez dit. Nous sommes sur la même longueur d'onde et je pense que tout ce que ma société peut faire et qui serait bon pour l'Europe, nous le ferons.
Merci beaucoup. Quand on voit qu'il y a des différences si importantes pour nos concitoyens dans la vie et l'espace numérique, je pense que le mieux reste de se rencontrer et d'en discuter. C'est ce que nous avons fait.
Thank you very much.
Voilà, nous étions évidemment bien avant le conflit entre Israël et le Hamas. À ce moment-là, Elon Musk disait qu'il était prêt à tout faire pour l'Europe. On rappelle que le DSA oblige normalement à plus de transparence concernant la modération, oblige aussi les plateformes à retirer le plus rapidement possible des contenus qui sont illégaux, des contenus qui appellent au meurtre, la haine en ligne. Et on voit, on en a parlé au début de cette émission, que c'est en ce moment très loin d'être fait. Ophélie Coelho rappelait deux choses, à la fois quelque part la panne institutionnelle, juridique des outils pour contrer de ces plateformes-là, et puis aussi peut-être un débat un peu plus philosophique sur la subjectivisation, le côté subjectif de la modération. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, Hugo Micheron, de savoir à quel moment cette liberté d'expression s'arrête.
Oui, en fait, à tout ça s'ajoute aussi la question de souveraineté. À savoir que l'Europe, c'est le premier espace numérique au monde. C'est 1,5 fois l'espace numérique américain. Et pourtant, l'Europe n'a aucun réseau social. Donc vous avez les GAFAM qui appartiennent aux États-Unis, enfin ce sont des réseaux sociaux américains, pensés et faits par des Américains. Vous avez des réseaux sociaux russes, Vkontakte, Telegram, vous avez des réseaux sociaux, voire même une partie de l'Internet chinois. Et nous, on n'a pas de souveraineté algorithmique. Donc, et c'est d'autant plus surprenant qu'un certain nombre des ingénieurs des plus grands réseaux sociaux mondiaux sont français. Donc on aurait les ressources possibles pour ça. Et donc la réalité, c'est qu'on est utilisateur de réseaux sociaux, mais on ne possède pas les algorithmes. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réguler, c'est ce qu'essaye, donc c'est la voie qu'essaye de faire Thierry Breton, mais aller réguler quelque chose qu'on ne possède pas, c'est très très compliqué. Donc la question de la régulation, à mon sens, ne peut pas être pensée sans la question de l'innovation. Et là-dessus, il faut qu'on arrive à comprendre que c'est bien beau d'être un grand marché, mais si on ne possède pas les outils dont tout le monde se sert, on va être en permanence en position d'être colonisé. Donc là, colonisé numériquement. Donc c'est pour ça que si on reconsidère encore une fois l'espace informationnel comme étant un espace à part entière, eh ben il nous faut nos outils. On a raté là, clairement la révolution des réseaux sociaux en Europe, puisqu'on n'en a pas de gros, mais là, il y a la nouvelle révolution avec l'IA génératif, et ça coûte rien. C'est contrairement aux réseaux sociaux, ça coûte pas très cher de développer les outils, donc il va falloir construire tous ces outils. Sans ça, on va être tout le temps à réguler l'innovation de l'année dernière et pas celle de demain.
Mais effectivement, parce que le temps juridique et législatif a toujours un train de retard par rapport au temps technologique. Ophélie Coelho, vous aussi, vous appelez finalement à ce que l'Union européenne puisse se doter de leurs propres outils. Vous parlez, vous évoquez même une soumission historiquement rapide de l'UE face au Big Tech.
Absolument. Absolument. Après, je pense qu'il faut vraiment ici avoir en tête que le choix technologique est important aujourd'hui. Il est important pour la société, pour une vision du monde de manière générale. Je pense qu'il ne faut pas forcément courir après la dernière innovation, contrairement à ce qui vient d'être dit. Je suis assez d'accord avec le fait qu'il faut à un moment donné avoir le contrôle sur les technologies clés qui sont utilisées dans une société. Le contrôle, ça ne veut pas dire contrôler les informations, avoir la main sur les données. Ce n'est pas forcément cela. Surtout si on parle du contrôle par une grande entreprise ou par un État, c'est pas le sujet. Mais je pense qu'il faut une bonne répartition du pouvoir. Aujourd'hui, les pouvoirs sont entre les mains de quelques sociétés extrêmement puissantes qui ont un pouvoir technique, un pouvoir économique, un pouvoir politique et qui s'étendent dans le monde entier. Donc c'est vraiment des multinationales du numérique avec un grand pouvoir. Et donc, en effet, il est nécessaire pour nous d'être en capacité de négocier avec ces grands acteurs. Et pour cela, la production technologique peut être une bonne chose, mais pas forcément dans des technologies qui ne sont pas utiles. Je veux dire, l'IA générative va être utile pour certains métiers, mais pas partout. Il ne faut pas se jeter à corps perdu sur toutes les nouvelles technologies qui apparaissent, que ce soit l'intelligence artificielle d'un côté, le métaverse il y a quelques années, etc. On a vu que tout ça, au final, parfois, ce sont juste des soufflets qui retombent très facilement et qui ont pour autant suscité beaucoup d'investissements. Donc, il faut redevenir, je pense, beaucoup plus réaliste sur les besoins de la société. C'est-à-dire, de quoi on a besoin aujourd'hui et sur quoi on peut bâtir un socle dur, un socle infrastructurel aussi, que ce soit logiciel ou infrastructurellement, pour pouvoir être en capacité de négocier avec ces acteurs.
Parce que c'est vrai que là, on voit quand même un rapport assez asymétrique, même un peu dingue finalement, d'imaginer l'Union européenne d'un côté et puis un seul homme, Elon Musk de l'autre, qui est d'ailleurs un chantre de la liberté d'expression. Vous l'avez rappelé, Hugo Micheron, c'est un libertarien. On revient justement à cette question difficile de la conception même de la liberté d'expression, Julien Pin. Quels ont été les effets de la reprise en main d'Elon Musk? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, il a supprimé une partie de ses modérateurs. On savait déjà, même avant, parce qu'il ne faut pas non plus idéaliser l'ancien Twitter, il y avait déjà des défaillances terribles au niveau de la modération. On en a plusieurs fois parlé ici dans cette émission, mais ça a été les premiers coupes qu'il a opérées. Il a lui aussi été un acteur, un agent de la désinformation à plusieurs égards. Il y a un effet délétère, a priori, d'Elon Musk sur Twitter. Vous appelez d'ailleurs, vous, peut-être même à quitter Twitter dans une tribune à paraître prochainement.
Alors, on a effectivement, on a écrit une tribune avec Tristan Manès France et Rudi Reichstadt. On a été rejoint par pas mal de monde. Des gens qui ont une grosse communauté sur Twitter, comme Salomé Saké ou pas mal d'autres journalistes. Et effectivement, on appelle à faire, dans un premier temps, une journée sans Twitter, pour envoyer un message en disant on a conscience de l'impact délétère d'Elon Musk sur Twitter, on voit bien le flot de désinformation qui est en train de nous tomber dessus, on voit bien les contenus toxiques qui sont de plus en plus importants. Alors on voit des vidéos gore, de la haine en ligne, du harcèlement, et tout ça, à un moment, faut dire stop. Alors on n'a pas de, on pense bien que Elon Musk va pas, suite à notre tribune dans Le Monde lundi, décider de changer son fusil d'épaule. On voit bien comment il répond à Thierry Breton sous le ton à la limite de l'humour et comment il traite les journalistes.
Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il lui répond sur son terrain, puisque justement Hugo Mécheron parlait d'un espace à part entière. Et on voit même Thierry Breton obligé de lui pointer du doigt sur son terrain, sur Twitter. Donc oui, on voit à quel point Twitter
c'est malin.
C'est malin, mais ça prouve aussi que le média est incontournable.
Oui, mais c'est plutôt malin de l'attaquer sur son propre terrain. Par contre, ce qui est plus inquiétant, c'est que si il lui demande de venir à une réunion à l'Union européenne pour discuter de ça, il viendra pas. Donc il sait qu'il a pas trop le choix non plus que de l'interpeller sur Twitter, parce qu'en plus ça arrange Musk, parce que Musk va faire du buzz autour de ça. Parce qu'honnêtement, à la fin, on se demande pourquoi Musk a acheté ce Twitter. On se demande presque si c'est pas un outil pour lui développer sa notoriété, parce qu'au final, il est en train de flinguer son propre outil. On voit que les publics, d'un point de vue publicitaire, ils perdent de l'argent. Les abonnés, on sent que c'est en train de baisser. Il parle de rendre Twitter payant, c'est du délire absolu. Il est en train de flinguer quelque chose qui lui a coûté 40 milliards. Et on se demande si c'est pas simplement parce qu'il a envie de se promouvoir ses idées et promouvoir sa propre personne. Ça paraît dingue, mais pour un milliardaire comme lui, c'est peut-être en partie vrai.
Ophélie Coelho, vous souhaitiez réagir ?
Oui, tout à fait. En fait, je pense que concernant cela, le fait que Musk se dirige en fait vers l'achat d'une plateforme avec beaucoup d'utilisateurs sur la partie numérique, c'est tout simplement parce que c'est un peu ce qui lui manquait dans son portefeuille. Et quelque part, il veut faire de X probablement une super app, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il y a en Chine concernant WeChat, par exemple. Ce sont des applications, des super applications qui permettent de faire plein de choses. Et il y a quand même dans le projet de Musk cette envie de faire de X, X, une plateforme qui serait pas seulement une plateforme d'information, mais qui pourrait par la suite permettre d'ajouter d'autres fonctionnalités, d'être plus, d'avoir plus, de ressembler de plus en plus à une super app. Et du coup, c'est assez cohérent avec son projet de modèle d'entreprise, où il ajoute en fait au fur et à mesure des entreprises sur des domaines assez stratégiques. Là-dessus, on a un équivalent qui est pas tout à fait un équivalent, mais qui est Google, qui là aussi s'étend en fait sur des domaines très très différent et très stratégique. Je pense qu'il y a vraiment un projet à long terme de la part de Musk, même s'il le fait évidemment à sa façon, c'est-à-dire qu'il n'a pas une maison mère, il a plusieurs entreprises, et c'est lui qui réunit en effet en mode gourou toutes ces entreprises au travers d'une vision, de sa vision.
Et si on parle justement de l'agenda et du calendrier d'Elon Musk, c'est parce que tout cela profite justement aux agents de la désinformation, qui est notre sujet d'émission, ce patron dont on peut juste émettre des hypothèses sur ce qu'il est censé faire, mais nous, on a du mal à savoir justement quel en est son cap. On peut juste constater les effets délétères de son entreprise et la manière dont ce réseau devient plus facilement une arme à portée de main pour les agents de la désinformation. Et c'est pour ça d'ailleurs que Thierry Breton avait encouragé les gens à rejoindre Blue Sky, c'est-à-dire une alternative qui se veut sereine de Twitter, qui a d'ailleurs été fondée par l'ancien fondateur de Twitter lui-même, Jack Dorsey. Et ce Blue Sky, vous l'avez suivi, Marie Turcan, le conseil de Thierry Breton. Vous y êtes allé sur Blue Sky. Bonsoir.
Et oui, c'est vrai. Un beau matin de septembre, j'ai décidé de faire mes valises. Adieu Twitter, les insultes, les clashs entre trois décérébrés qui font du bruit comme 50 personnes. J'ai pris mes bagages numériques et puis j'ai migré, comme des milliers de Français avant moi, vers cet autre réseau social dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit donc, comme vous l'avez dit François, de Blue Sky. Blue Sky, ça veut dire ciel bleu, un peu comme pour dire « rassurez-vous, ici, il fait bon vivre
». Est-ce qu'il fait vraiment bon vivre, justement, dans ce ciel bleu de Blue Sky, Marie ?
Indéniablement, oui. Blue Sky, c'est un peu comme Twitter à ses débuts. D'ailleurs, les deux plateformes ont été impulsée par le même homme, Jack Dorsey. Blue Sky, c'est une version décentralisée, son protocole de fonctionnement est ouvert et il n'y a pas d'entité centrale pour le gouverner. L'interface est volontairement très très ressemblante à Twitter. On garde ses repères visuels, mais surtout, surtout...
Il y a de la musique.
Et oui, c'est pour accompagner mon petit jingle, parce que quelle tranquillité d'esprit lorsqu'on ouvre l'application. Pas d'embrouille, pas de mesquinerie, beaucoup de photos de chiens, de chats, tout type de quadrupèdes à qui on a envie de faire un petit boop sur la truffe. Serais-je arrivé au paradis? C'est ce que j'ai demandé aux utilisateurs de l'application. Qu'attendez-vous de ce nouveau réseau? Alors en une journée, j'ai reçu plus d'une centaine de réponses, c'est dire la puissance déjà de cette plateforme. Ce qui a émergé, c'est rien de moins qu'un cri du cœur collectif. On espère, je cite, plus de positivité, une bonne ambiance, de la bienveillance, moins de violence, moins de haine, et quelqu'un m'a même dit la paix. Tout simplement, la paix. Alors, le terme résonne fort, surtout en ce moment. Il montre bien combien la surexposition à la brutalité a pu marquer et épuiser les internautes. Je leur ai demandé alors ce qu'ils appréhendaient le plus avec Blue Sky. Réponse, que la modération ne soit pas assez forte, que les trolls et les cyberharceleurs débarquent et emportent à nouveau tout sur leur passage.
Et est-ce qu'à votre avis, tout ça risque d'arriver?
Pour l'instant, Blue Sky, c'est un réseau sur invitation. On se transmet des codes de la main à la main, ce qui favorise une taille réduite et un certain entre-soi plutôt évident. La question est plutôt, est-ce que dans une économie capitaliste, une plateforme pourra s'interdire de grandir pour le bien de ses utilisateurs? Et puis il y a un dernier aspect important à mentionner. Il est légitime d'aspirer au calme, mais il serait illusoire de chercher à construire un réseau dépolitisé comme j'ai pu l'entendre dire à la marge. Ce qu'on appelle dépolitisé, c'est généralement une manière de repousser les revendications des minorités, de maintenir un statu quo qui étoufferait les revendications sociales. Dépolitiser, en fait, ça ne veut rien dire. La culture est politique, le divertissement est politique, et Blue Sky est et sera, lui aussi, éminemment politique.
Merci beaucoup Marie Turcan d'avoir, peut-être un peu douché, justement, les espoirs de Blue Sky, en n'étant pas ce paradis tel qu'il a annoncé.
Il y avait des petites truffes, François.
Mais il y a quand même des petites truffes, et ça, on ira voir, on verra peut-être la truffe de Thierry Breton, puisque il dit qu'il y est dans ce réseau social Blue Sky, mais vous avez effectivement eu raison de rappeler que, quoi qu'il en soit, un réseau social par nature est un réseau politique dans la manière dont il est conçu, par son architecture et bien évidemment de par la manière dont il est utilisé pour le pire et pour le meilleur. On a eu l'occasion d'en parler aussi précédemment dans cette émission. Hugo Micheron, peut-être pour terminer sur une dernière idée, vous avez évoqué une sorte d'entrée dans un terrorisme de type nouveau. Qu'est-ce que vous entendez par là?
C'est-à-dire que on est dans une situation à l'heure actuelle où le débat démocratique n'existe pas en fait en ligne, ce qui était la promesse d'ailleurs de Twitter. Enfin, je parle sous votre contrôle, mais Twitter devait être une sorte de plateforme de débat public et de délibération virtuelle. Or, on le voit bien, ça ressemble quand même beaucoup plus à une dystopie qu'à cette utopie-là. Et sur ce terrain-là, les terroristes obtiennent une audience qu'ils ne pourraient jamais avoir autrement. Et donc, de ce point de vue-là, on a une amplification de groupes minoritaires, mais extrêmement nocifs, qui sont ultra actifs. Et donc, je pense qu'il va falloir comprendre qu'on change totalement d'époque. Là, on arrive avec la guerre en Israël et en Palestine à des niveaux d'engagement, on l'a dit, qui sont considérables. Il se trouve que l'année prochaine, il y a 52 élections dans le monde, les élections européennes, les élections aux États-Unis, les élections en Grande-Bretagne, des élections dans pas mal de pays de l'OTAN, etc. Et si vous voulez, si vous placez du côté d'un acteur étatique qui a des capacités d'intervention sur les plateformes, justement, en menant cette guerre informationnelle au hasard, la Russie, vous avez une guerre à gagner en Ukraine. La meilleure manière de la gagner, en fait, c'est peut-être évidemment de tenir le front militaire, mais aussi de déstabiliser les puissances occidentales qui la soutiennent, en commençant par leur débat public.
Et en créant des contre-feux, justement, à droite à gauche. Et pour ça, les 52 élections que vous venez de rappeler sont autant de foyers potentiels. Merci à tous les trois, à tous les quatre de m'avoir accompagné dans cette émission. Je remercie à la préparation, évidemment, Juliette Devaux, accompagnée par Béatrice Grégoire, à la réalisation ce soir, Perret Legras, à la technique son, Étienne Rouche, et à la réalisation audiovisuel, Félix Delacour, car je le rappelle, cette émission est diffusée sur Twitch. Et un dernier merci à la documentation de Radio France qui a bien nourri notre préparation. Le meilleur des mondes, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve évidemment dès la semaine prochaine et dès lundi matin dans la matinale de France Culture.